Depuis la création de cette émission l'année dernière, nous n'avons eu de cesse de parler de lui. Au mois de juin, nous avions diffusé un entretien avec Catherine Brun, sa biographe. Et ce soir, nous avons l'honneur, le privilège de vous faire entendre cet entretien. Pierre Guyotat, nous le considérons comme le plus grand, le plus important. Il s'agit donc d'un aboutissement pour cette émission d'avoir pu réaliser cette interview avec lui. Elle a été réalisée chez lui le lundi 11 juillet 2005, dans l'après-midi. Rappelons, il est essentiel de lire ses textes. Progéniture, paru en 2000, auquel cet entretien fait une constante référence. Le livre, Prostitution, Eden, 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 Tombeau pour 500 000 soldats, et puis Explication, Vivre et Littérature interdite. Nous rappelons également qu'en 2005 est paru Ashby et Sur un cheval en un seul volume au Seuil, qui est la réédition de deux textes de jeunesse devenus introuvables. Et puis les Carnets de bord, édités aux éditions Ligne et Manifeste par Michel Suria, qui couvrent la période des années 60. Et enfin, Pierre Guyotat, essai biographique, paru chez Léo Cher et qui a été écrit par Catherine Brun, que nous avons reçu au mois de juin. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et à remercier Pierre Guyotat de m'avoir reçu avec autant de gentillesse. Alors bonjour Pierre Guyotat, merci de me recevoir pour cet entretien. J'aimerais que l'on commence, si vous le voulez bien, par cet enjeu qui est de dire l'action. J'ai l'impression que ce qui se fait généralement en matière de littérature, c'est que l'écrivain utilise la langue pour créer de l'action. Vous, j'ai l'impression que vous opérez un retournement et que c'est entre autres pour cela que vous rejetez le terme d'écrivain. Ce retournement est que vous vous servez de l'action pour rerythmer une langue. C'est-à-dire qu'à partir de l'action, vous inventez de la langue. Pour être plus précis, je dirais que l'action que vous avez choisi de dire contraint la langue pour dire cette action. Est-ce cela ?
Oui, il y a du vrai, oui, il y a du vrai, beaucoup, oui. Je l'ai moi-même souvent dit, hein, j'ai surtout regretté que... En matière de poésie, il n'y a plus d'action. Déjà depuis pas mal de temps. Mais, comment dire ? Disons, je fais de l'action, mais ce n'est pas forcément ce que j'aurais souhaité faire aussi. J'aurais aussi souhaité faire en quelque sorte de l'immobile, d'une certaine façon, peut-être au fond de la philosophie, parce que c'est ça, ce qui différencie sans doute la philosophie de ce qu'on appelle la fiction, encore qu'il y a beaucoup de philosophie, bien entendu. Dans la fiction, ça va de soi, je ne suis pas le premier à le dire, et à le revendiquer d'abord. Mais... L'action, il faut s'entendre sur le terme aussi, parce que moi, j'ai moi-même utilisé beaucoup ce mot, je l'ai utilisé, je le réutilise encore beaucoup, je le revendique, je professe presque, je prêche presque qu'il faut remettre de l'action dans les textes, ce qui ne veut pas dire des histoires, ce qui ne veut pas dire de l'histoire, c'est pas l'histoire au sens des histoires, comme on entend partout à la télé aujourd'hui, non, l'action et les histoires, c'est autre chose. Raconter des histoires, ce terme qui revient régulièrement maintenant d'une façon quasi infantile, parce que c'est extraordinaire, quoi. Des éditeurs ou des comment dirais-je, des journalistes ou des je ne sais quoi, à la télévision ou ailleurs, surtout la télévision, recommencent à parler de cette chose-là, et même des autres, évidemment des auteurs. D'abord, raconter des histoires, comme si c'était le, 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 la chose absolument comme si c'était ce qui, en principe, doit de toute façon captiver le lecteur. Et je suis extrêmement... On peut tout à fait mettre en question cette espèce d'axiome, axiome commercial primaire. Donc oui, je ne suis pas un fanatique de l'action, parce que chez moi, l'action est très microscopique, par ailleurs. Elle n'est pas... Pour l'instant, enfin, aujourd'hui, elle a été, dans le passé... très très dégagé, très très complète, avec des espaces, avec de grands espaces, etc. Aujourd'hui, les choses se sont tout à fait réduites, et même d'une certaine façon. Regardez, déjà avec Eden, les choses se sont beaucoup réduites. L'action, c'est une action presque microscopique. Alors, d'une certaine façon, peut-être que c'est plus proche de la science que qu'autre chose, peut-être. En tout cas, comment dire ? D'abord, il y a l'action, il y a plusieurs formes d'action dans ce domaine-là. Il y a l'action théâtrale, il y a l'action romanesque, je veux dire, l'action fictionnelle. Moi, je me situe beaucoup plus du côté de l'action théâtrale, finalement. Voilà. Et le théâtre... ce théâtre-là exige qu'il soit toujours en mouvement, donc exige une langue, enfin bref, moi en tout cas s'il y a quelque chose qui me... Comment dire, ça a toujours été un dilemme chez moi de toute façon, cette espèce de... pas d'hésitation, parce que je n'ai jamais écrit que de l'action finalement, dans ce sens-là, mais je vous dis, j'ai toujours en arrière-pensée le rêve de ce qui serait, alors à ce moment-là, de la littérature, une littérature immobile, c'est-à-dire qui ne bouge pas, qui, en quelque sorte, disons, qui pénètre de plus en plus profond là où elle est, en quelque sorte, là où la chose a commencé. Voilà. C'est peut-être, en fait, ce qui se passe dans ce que je fais. En tout cas, c'est pas ce que je veux, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai toujours aussi hésité. Pas hésiter, mais j'ai toujours en arrière-plan, je vous dis, car si on veut quelque chose, si on désire quelque chose, si on crée quelque chose de très net, de bien, etc., ça ne veut pas dire qu'on ne désire pas créer le contraire de ce qu'on fait. Hein, c'est une chose qu'il faut savoir aussi. Hein. Il est évident que quand je dis de la philosophie, je rêve. C'est du reste ce qui m'empêche quelquefois d'aller un peu plus loin, parce que j'ai besoin effectivement de rêver devant une œuvre, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que la philosophie impose qu'on ne rêve pas.
Progéniture, pour aller vite, ne contient que de l'action. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de jugement. Vous avez d'ailleurs cette formule dans l'explication, vous dites... Dans progéniture, tout est actif, comme tout est faire au lieu d'être. Ça voudrait dire que ceux qui font de la langue de progéniture, les putains, pour aller vite, ne sont pas. Par contre, ils font de l'action. Pour dire cette action, vous utilisez les moyens lexicaux du concret, des moyens lexicaux concrets. Et vous dites même, comme pour enfoncer le clou, l'art commence là où il n'y a plus de mots abstraits. Alors, ma question, est-ce que progéniture... et une machine à fabriquer de l'action concrète?
Non, parce que en fait, quand je dis il n'y a pas de psychologie, j'ai quand même modulé la chose. Donc il y avait des comportements. Il y a des comportements. Je suis même persuadé qu'un jour, si jamais ces textes-là durent un peu, j'en sais rien, on y trouvera beaucoup plus de psychologie dans beaucoup de romans dits psychologiques de la même époque. Hein. C'est pas... On dit psychologique parce que c'est un certain genre, surtout en France, qu'en France on est les rois du roman psychologique. Mais regardez, chez les Anglais, chez les Allemands, il n'y a pas de psychologie ouverte. Ou alors, chez James, pardon, vous avez une sorte de psychologie complètement un peu tordue, quoi, très, très, très complexe, très stylisée, très excessive, très bon. Mais c'est toujours de l'action, hein, c'est Shakespeare, toujours. Hein, c'est le pragmatisme anglais, donc agissons, sortons, rentrons, etc. Toujours. C'est ce qui est difficile en France, du reste. À tout point de vue, on le voit bien, en matière de politique aussi. Et, mais ça, c'est autre chose. Donc la psychologie, qu'est-ce que c'est ? Quand je parle de psychologie, c'est la psychologie à la française. Hein. Parce que dans ce que je fais, quoi qu'on ait pu dire, y a énormément de comportements. Les figures, comme je parle des figures, moi. Je ne parle pas des êtres, parce que ce ne sont pas des êtres. Hein. Vous disiez tout à l'heure, pas de... Bon, plutôt faire que être. Et c'est pour ça que ceux qui font essentiellement le discours, enfin, oui, sont des non-étants, si je peux dire. Tout ça correspond très bien. Mais... Comment je voulais dire ? Ça n'exclut pas du tout que le... Comment dire ? Ces figures ont chacune un comportement. Des comportements un peu de comédie, si vous voulez, des comportements infantiles ou des comportements de comédie, des comportements même plus profonds, quelquefois. Évidemment, ce n'est pas la psychologie, étant donné qu'il n'y a pas de socialisation autre que celle qu'on trouve... Dans ce livre-là, ou dans ma scène en général, il n'y a pas de psychologie au sens français du terme, au sens roman psychologique du terme. Mais il y a énormément, il y a beaucoup de complexité de comportement, donc de discours. Il y en a qui utilisent certains mots, d'autres pas. Il faudrait faire une étude de tout ça très très précise. Si vous voulez, j'ai toujours dit ça. Mais j'ai quand même très souvent aussi expliqué que, comment dirais-je, ces figures étaient dotées de comportements. Chacune de comportements différents. Il y a les jeunes, il y a les plus jeunes, il y a les joyeux, les moins joyeuses, les solides, les moins solides, les plus fragiles. Je dis pas intellectuellement, mais enfin les plus fragiles nerveusement, il y a les... Si on avait le courage de faire un inventaire, on serait très surpris, je pense. En tout cas, moi je pense que... Alors je ne sais pas si c'est la création d'une psychologie nouvelle, j'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, il y a... ça n'est pas mécanique ou... Égal, comme on l'a souvent dit, un peu rapidement, beaucoup trop rapidement. Ce n'est pas parce que les corps sont ceux-là, en tout cas, sont jetés dans une même GN que leur discours respectif est le même. En tout cas, moi, sinon ce serait pas amusant, ce serait pas amusant du tout.
Pour dire, alors c'est les comportements, il faut du rythme. Mieux même, c'est le rythme qui fabrique ces comportements.
Les comportements sont là dans le discours, dans la répartie, dans tout ça. C'est du théâtre, hein, c'est du théâtre. Et quand on met face à face deux individus, en plus quand tu as un être et un non-être, évidemment, il faut nourrir ce duo ou ce trio, je ne sais quoi, etc. Et moi, au fond, je ne fais rien d'autre que ça. Et quelquefois, ça m'amuse, quelquefois, ça m'amuse pas. Quelquefois, c'est... Il faut donc inventer, que chacun invente une ruse réelle, une ruse verbale pour obtenir ce qu'il veut de l'autre. Pour obtenir ce qu'il veut, ce qu'il croit vouloir, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. En tout cas, tout ça est extrêmement vif et, et je pense pas répétitif du tout. Comme on le dit aussi, mais dans un très bon sens par ailleurs. Hein, parce que l'histoire de la répétition, de la monotonie, ça a correspondu à une période un peu comme ça, déridienne ou je ne sais quoi, etc. Et en fait, c'était une facilité. C'est une facilité. C'était philosophique ou critique. On croyait que c'était bien de dire ça. Au contraire, c'était formidable, etc. Mais moi, je pense que, vous savez, dans un premier temps, une œuvre qui tranche comme ça, une œuvre, elle est vue par ceux qui l'aiment et ceux qui commencent à la comprendre. Elle est vue comme donc révolutionnaire, donc effectivement appuyant le clou, si je voulais, enfonçant le clou. Donc forcément répétitive, forcément insistante, comme on a vu à une certaine époque, comme le cubisme au début a été vu comme comme un art répétitif, excessif, appuyant, etc. Et en fait, pas du tout. Dans la réalité, pas du tout. Mais c'est la première vision qu'en ont, la première impression qu'en ont ceux qui, en tout cas, tournent leur regard de ce côté-là. Voilà. Et c'est une facilité d'époque, de circonstances, de louer une œuvre, de célébrer une œuvre en la célébrant comme répétitive, insistante, tirant sa puissance de ça, mais pas du tout. Pas du tout.
Vous dites dans l'explication, ce que je sais, c'est que mes versets sont calculés. La mesure de ce rythme syllabique rigoureux, le calcul des pieds, est un des actes principaux du travail sur progéniture. Vous dites même plus loin, une idée, c'est d'abord du rythme. Est-ce que l'on peut avoir plus de précision sur ce travail, sur progéniture, ce travail de calcul des versets? Et est-ce encore un souci dans votre travail actuel?
Ah, mais bien sûr. C'est un souci depuis très longtemps déjà, depuis les années, un souci vraiment actif et explicite depuis maintenant, depuis 25 ans, de toute façon. Hein. Et puis j'ai commencé par écrire des poèmes quand même, moi, pendant pas mal de temps, quand j'étais adolescent. Donc, si vous voulez, comment dire. En tout cas, ce qui fait effectivement la... Ce qui peut faire la fatigue qu'on peut éprouver, en dehors du fait que c'est un monde qui est difficile, où il est tout de même difficile d'entrer, enfin soi-même, hein, soi-même. J'en fais expérience en ce moment, c'est pour ça que je ne suis pas très vaillant aujourd'hui. Donc c'est un peu une géhenne quand même. Hein. Je sors du monde réel, qui est ce qu'il aime, enfin bon, okay, et je rentre dans celui-là, qui m'est, si je peux dire, imparti, dévolu. Mais j'y rentre, déjà c'est difficile. Et en plus, vous avez cette nécessité et cet immédiat réflexe de rythmer. Et le rythme, vous ne le faites pas d'une façon abstraite, là aussi. Vous le faites avec votre... Ben, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que c'est une chose sur laquelle on a tellement insisté à mon endroit, le corps, l'engagement du corps dans ce que je fais, etc. Mais c'est vrai que je ne peux pas le nier, c'est vrai. Si vous voulez, je vois très bien comment on peut, parce que je l'ai fait, comment on peut écrire le chapitre d'un roman ordinaire, si vous voulez, d'un roman égal, vous voyez, comme ça, etc. Et ça n'exige pas une participation pulmonaire, cardiaque, même nerveuse aussi considérable que ce qui existe, ce que je fais aujourd'hui. Pardon, progéniture, ou ce que je fais, encore plus ce que je fais aujourd'hui, si vous voulez. Parce que... Donc je mesure effectivement à ça la distance, quand même, d'abord qui me sépare de beaucoup aujourd'hui, et de beaucoup même dans le passé, même, sauf de certains, bien entendu, dont je comprends mieux, de toute façon, maintenant, dont je pressentais la vérité du discours, et donc maintenant je le vois pour moi, mais il est évident que, comment dire, là est la différence entre la littérature et l'art, si vous voulez. L'art, c'est sûr que je m'engage autant qu'un peintre ou qu'un musicien qui essaye avec son piano, etc., qui même chante, qui essaye, etc., qui... Je sens très bien que j'ai à, quand je mets en marche la chose, que j'ai à impliquer beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de paramètres, comme on dit maintenant, et beaucoup plus de profondeur, c'est évident. Une profondeur pour lancer plus haut, si vous voulez. Enfin, pour lancer plus loin. c'est pas seulement dû au fait de à la nature de ce monde-là. C'est dû au fait que je ne peux le sortir que en le rythmant au si je peux dire au millimètre près, au dixième de seconde près. Vraiment, c'est une chose qui est difficile peut-être à comprendre aujourd'hui où le rythme a beaucoup disparu, ce qu'on appelle le rythme maintenant, ce qu'on appelle le rythme. Alors, c'est soit ce que vous connaissez, c'est-à-dire la techno, etc., soit alors, on va vous parler d'un écrivain qui a du rythme. Moi, je cherche encore, personnellement. Je trouve pas. Si, il y a des auteurs qui ont évidemment, chez lesquels il y a, évidemment, bien entendu, il y a même des auteurs, des jeunes qui ont retrouvé le sens du rythme, de toute façon. Mais ce qu'on nous appelle rythme, ce qu'on nous désigne comme œuvre avec rythme, aujourd'hui, c'est assez grotesque, parce que pour moi, il n'y a pas de rythme. Il n'y a du rythme qu'il y a un rythme vraiment calculé, si vous voulez. Calculé. Voilà, donc je reviens à votre question. Voilà. Et c'est une chose très intéressante parce qu'au fond, je n'ai jamais pu vraiment la développer, ou peu, parce que je ne suis pas un spécialiste de la métrique, d'abord. Il faudrait pouvoir avoir un grammairien ou un spécialiste de la métrique, etc., pour voir d'où ça vient et effectivement nommer les figures, nommer les choses, si vous voulez. Il faudrait demander à quelqu'un vraiment de très, très fort là-dessus, comme Bernard Satellini, par exemple, que je connais depuis peu, qui est un grand connaisseur de la langue française, pour pouvoir... parce qu'au fond, moi, je suis dans une espèce d'inconnu, là aussi. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne rythme plus, qu'on ne fait plus de rythmique syllabique. Ça ne se fait plus du tout. Hein. Quelques jeunes, maintenant, commencent un peu à le faire sous forme de vers blancs, comme on disait autrefois à l'école, dans de la prose, si vous voulez. Comment dire ? Le rythme... Si j'ai parlé de Claudel, par exemple, c'est parce que c'est effectivement le seul grand auteur dont j'ai pensé qu'il se trouvait sur le chemin, si vous voulez, qui mène à ce que je peux faire maintenant, à ce que d'autres feront, certainement, j'imagine. On ne peut pas continuer comme ça. Mais Claudel, c'est une espèce de respiration. C'est un souffle, c'est très lié à lui, hein, très lié à ce qu'il était, lui, à sa force physique et à son désir, à tout ça, etc., et à sa transcendance, c'est très lié à ça. C'est pas, si vous voulez, calculé quand même, on voit bien quand on en lit. C'est mieux, bien entendu, que de la prose, que du Feydeau, que de je ne sais quoi, si vous voulez, bien entendu. Mais c'est, même que du Marivaux, bien entendu. Mais c'est pas encore. Claudel vit à une époque où on commence à en avoir ras-le-bol, si je peux dire, du vers rythmé, du vers de l'alexandrin, l'octosyllabe, des grecs, etc. Lui, il sort de ça. Il est déjà dans une révolution à l'époque, si vous voulez, contre le vers. Et moi, ce n'est pas que je vais rétablir le vers, pas du tout, bien entendu. C'est absurde. Mais je crois que contrairement à Claudel qui pense les choses, ça se voit, ça se lit dans sa langue, du reste. Vous voyez bien que Claudel est quelqu'un qui utilise encore un langage, je ne dis pas un langage de tous les jours, quelquefois, mais quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, quand il veut être extrêmement simple, il utilise un langage qui est absolument, que tout le monde peut comprendre tout de suite. Il n'y a pas de déformation de mots, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il pense, si vous voulez, comme Michelet, il pense par paragraphe, il ne pense pas vraiment par mots ou par syllabes, comme moi. Moi, la différence, elle est là. C'est qu'entre autres, il y en a plein d'autres, mais moi, je pense par syllabe, par lettre, par syllabe, par son, dans le mot, si vous voulez. Je parle de Michelet parce que Michelet est très. On en fait un grand auteur, une grande langue, etc. Moi, j'ai toujours dit que c'est. Oui, mais. Comment dirais-je, c'est quelqu'un qui fait des paragraphes, qui fait des phrases. Le poète est celui qui fait des mots, vraiment. Claudel est un peu entre les deux, si vous voulez.
Et vous avez parlé de...
Chaque mot.
Vous avez parlé de calcul. Comment ça s'effectue ce travail chez vous, ce calcul? Parce qu'effectivement, vous êtes devant une inconnue. Quoi. Comment au quotidien de l'écriture...
Une inconnue parce que mes versets, si je peux dire, sont des versets très longs quelquefois. Très longs, vous voyez, avec en progéniture, vous avez la descente. Il a fallu... Ça a été difficile à faire comprendre, ça, vous savez. Qu'il fallait faire descendre, que c'était pas du tout que c'était la continuation du verset. Faire comprendre ça, déjà, à l'imprimeur, ça a été à ceux qui préparent, ça a été un problème. Et moi-même, je me disais à ce moment-là, en 2000, début 2000, pourtant, donc j'aime beaucoup, je connais, je me disais, mais est-ce que je suis pas en train d'être fou, de faire quelque chose, d'exiger quelque chose de fou? Alors, je réfléchissais, je suis allé voir des modèles, etc. Mais comment effectivement, sur une page ordinaire de livre, faire figurer un verset dans sa totalité, pour bien montrer que qu'il ne s'agit pas que ce qui est, que la ligne qui commence un petit peu en dessous, etc., etc., c'est un autre vers ou verset, du tout. C'est la continuation. Faire comprendre ça. Il a fallu expliquer, du reste, dans le glossaire. Expliquer ça. Parce que les gens ont oublié qu'autrefois, on pouvait aussi faire comme ça, aussi comme ça. Ou qu'on mettait des crochets. Mais les crochets, c'est très laid. C'est horrible, les crochets. Donc, j'ai choisi cette graphie-là. Vous voyez? Pour qu'on comprenne bien que c'est le même verset qu'il faut dérouler. Il ne faut pas le prononcer tel que... Vous voyez? Il faut le dérouler. Il n'y a pas de... Mais comment faire? Vous êtes obligé, voilà, de... Il faut tenir compte de la page. Même si on avait choisi d'imprimer sur la verticale de la page, si je peux dire. Vous voyez, comme
la
les...
formale italienne.
Oui, formale italienne, par exemple, ou je ne sais pas, non pas la japonaise, non, quelque chose de ce genre. Mais enfin, ça n'aurait pas réglé le problème de certains versets qui sont longs. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et quand je lis, je les lis avec, dans le souffle. C'est ce qui me rapproche de Claudel et de certains autres, et de Claudel surtout. Sauf qu'à l'intérieur de ce souffle, je travaille à l'intérieur de ce souffle, moi, voilà. Évidemment, on travaille, bien entendu, le sens, tout, etc. Mais ça a moins d'importance, chaque mot a moins d'importance, j'en suis sûr. Ou il a de l'importance comme dans la prose. Parce que moi, ça a de l'importance comme dans comme chez Mallarmé. Chaque mot, chaque son, chaque syllabe, chaque lettre, chaque consonne compte. C'est une œuvre de musicien, ça c'est évident. Alors comment faire, voilà, saisir visuellement cette musique, voilà.
Nous avons parlé beaucoup de la langue, oui. De ce rythme. Est-ce que on va élargir à quelque chose de très général sur Progéniture. Est-ce que Progéniture contient un monde?
Ah oui, je crois. Je crois. Un monde qui n'est jamais, du reste, tout à fait au point. Parce que par rapport à ce que je fais maintenant, il y a encore dans Progéniture des restes de fiction presque ancienne, si je puis dire. Enfin bref, moi je peux le dire, moi. Mais si on considère la progéniture, par exemple, la fin, les 100 dernières pages, par exemple, on est à peu près comme toujours dans ce que je fais, on se rapproche de ce que je fais maintenant. Et il est évident qu'il y a un monde, oui, un monde. Un monde rigoureux auquel il est extrêmement difficile d'annexer des éléments, chaque fois difficile d'annexer quelque chose de nouveau. Voilà. C'est une chose difficile à comprendre en matière d'art, ça. Cet aspect, je l'ai dit dans la progéniture, cet aspect de privation, si vous voulez, en art. L'art n'est pas du tout une chose qu'on fait, une chose débridée, une chose absolument pas. Sinon, il n'y aura pas d'art. Pour pouvoir imprimer quelque chose dans le cerveau de quelqu'un, d'un lecteur, qui puis regarde, il faut vraiment être d'une rigueur terrible, d'une rigueur féroce, si vous voulez. si vous voulez. C'est une chose aussi, ça aussi, la différence entre la littérature et l'art, l'art du mot. C'est que il n'y a rien à faire. Les œuvres, pour qu'une œuvre tienne un peu, il faut qu'il y ait une certaine lourdeur. C'est une découverte qu'on fait petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance en art, c'est que malheureusement, on est obligé pour s'imposer à soi-même son propre style, si je puis dire, et l'imposer évidemment aux autres, bien entendu, l'imposer même dans une histoire réduite, même dans un laps de temps réduit, même, on est obligé d'appuyer, c'est-à-dire que, vous voyez, les œuvres qui sont des œuvres légères comme ça, un peu du genre crème fouettée, oui, etc., ça ne tient pas. C'est joli à lire dans l'instant, ça peut tenir quelques années, ça ne tient pas. Il y a des gens qui ont l'obsession de la légèreté, etc., et ça ne marche jamais. C'est-à-dire l'art est forcément un peu lourd, parce qu'il doit imprimer ses lettres, la littérature, enfin, un art des mots doit pénétrer assez profond dans la page pour pénétrer assez profond dans le cerveau du lecteur. C'est illusoire de penser, j'ai pu le penser moi, qu'on pouvait faire une œuvre avec une espèce de conversation brillante. Ça ne tient pas le coup. Ça ne tient pas. Parce que ça ne tient pas, matériellement, ça ne tient pas. Si vous griffonnez quelque chose sur du papier ou sur du bois, ça ne tient pas. Dès que vous passez la main, c'est fini. Je sais pas, 15, des enfants qui, vous connaissez, enfants qui passent la main dessus, c'est fini. Vous êtes obligé de le graver. Vous êtes obligé de graver. L'art, ça se grave. Il n'y a rien à faire. Ou alors, il faut changer. Ou alors, l'art va changer. Peut-être les technologies nouvelles vont effectivement permettre de. Mais je ne sais pas, je ne crois pas. L'art est condamné à une certaine lourdeur, à une structure un peu lourde. Et ça fait mal, quelquefois, parce qu'on aimerait pouvoir. Regardez la musique. La musique légère ne tient pas. Qu'on dit légère, ça ne tient pas. Il faut vraiment une structure lourde, l'appui. Alors, voilà. Et c'est pénible, c'est dur à faire aussi. C'est dur à faire. Et c'est une épreuve aussi pour l'artiste qui désirerait rester un petit peu à la surface des choses. Parce que c'est un plaisir de rester à la surface des choses. Moi, je reviens du Japon, si vous voulez. Alors, le Japon, la civilisation mettrait en matière de légèreté, de signes, d'inscriptions. Et quand vous allez y voir de près, vous apercevez que c'est incroyablement tracé, oui. Et que ça tient le coup, ça ne bouge plus. C'est tracé. Que ce soit de la peinture, littérature, tout est absolument tracé, tracé.
Je souhaite continuer un peu avec le monde que vous créez. Ce monde, vous le créez par la création d'actions quotidiennes à faire par vos figures, et non pas en créant une structure générale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous commencez à créer un monde avant tout pour donner de l'action à faire à chaque figure. C'est-à-dire que ce qui prime, j'ai l'impression, c'est que ce monde permet de faire de l'action pour chaque figure. Est-ce que ça pourrait être à peu près cela, plutôt que de créer une superstructure et après aller dans le quotidien des figures?
Oui, mais il y a une superstructure quand même, qui est là, qui est quand même, qu'il faut peut-être suivre, qu'il faut peut-être pointer, comme on dit, dans les textes précédents, depuis le début. Hein, une sorte d'image du monde, image générale du monde. Hein, du monde. Et puis progressivement, se sont détachés de ce monde, des figures exclusives comme ça, un peu exclusives d'autres figures. Comment dire? Bien sûr qu'il y a un monde, mais ça, c'est pas tellement à moi au fond de le dire, parce que ça a été dit par les philosophes, par et ça sera dit, bien entendu. Parce que moi, je peux pas dire. J'en ai souvent parlé. Je dis, ce n'est pas ma vision du monde. Bien entendu, ce n'est pas ma vision du monde. C'est la vision qui me vient quand je me mets à écrire. Parce que vous savez, une œuvre d'art, comme la vie du reste, tout acte vital, c'est une libération d'énergie. Moi, j'en reviens toujours à ce que j'ai pensé, à ce que j'ai commencé à penser quand j'ai commencé à penser un peu par moi-même. C'est-à-dire que vraiment, vers 22, 23, un petit peu avant, vous voyez, quand on commence à avoir un peu d'expérience de la vie, et quand on commence à rejeter aussi les schémas psychologisants, etc., qu'on vous a imposé toute votre enfance, toute votre adolescence, qui viennent beaucoup de la littérature, bien entendu. Les schémas, pas tellement les schémas religieux mineurs, parce que le grand schéma religieux n'est pas un schéma de tourpeau, hein, loin de là. Au contraire, c'est un schéma qui nie un peu la psychologie, qui nie tout ça, si vous voulez. Et peut-être que mon monde est un monde théologiquement, si vous voulez, soutenable, hein, comment dirais-je. Peut-être. Ça a été dit, ça a été écrit, et je suis assez d'accord là-dessus, parce que c'est le monde de mon enfance, c'est la construction que j'avais, construction imaginaire que j'avais du monde, si vous voulez. C'est évident. Mais je pense que de plus en plus, je me suis fait, moi, par rapport à tout ce qui... au maître, ou tout ça, toute mon ascendance, etc., en pensant très fort une chose qui n'était pas du tout... qui n'était pas du tout évidente, comme on dit maintenant, à l'époque, et surtout dans le milieu dans lequel j'étais. C'est-à-dire que tout acte est une libération d'énergie. Voilà. C'est donc une vision un peu matérialiste, si vous voulez. Et je le pense de plus en plus. Vous écoutez de la musique, vous écoutez le premier mouvement de la 9e symphonie, par exemple. Qu'est-ce que c'est d'autre ? C'est surtout Beethoven, par exemple, qui est vraiment le parangon de notre civilisation, de la civilisation du 19e siècle, du progrès, etc. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas... Vous vous rendez compte ? Si une œuvre n'était que l'expression d'une douleur, parce que, vous voyez, dans les critiques, les Murat qui nous raconte, voilà, alors il est comme ça, il chante son machin. Non, pas du tout. Il libère une énergie. Un artiste, quelqu'un qui a une énergie énorme en lui, et qui la libère avec une structure qu'il lui faut créer, bien entendu. Hein ? C'est une espèce de bombe qu'il faut créer l'échafaudage, tout, absolument tout. Et tout acte, les actes dans la rue, les actes des enfants sont des actes de libération d'énergie. Regardez un enfant, c'est extraordinaire. Tout le temps, toute la journée, c'est libération d'énergie. C'est extraordinaire, c'est extrêmement émouvant et déchirant en même temps, parce qu'au fond, où est là-dedans la psychologie, la croyance, la foi, j'en sais rien, même l'amour, c'est étonnant. Ça n'est que de l'énergie, c'est extraordinaire. Du reste, l'amour même, c'est une énergie qui essaye de se réduire dans un seul. Enfin, alors vous voyez, l'explication d'une œuvre musicale ou d'une œuvre tout court, d'un poème par des soucis, même des soucis d'art, des soucis matériels, ou des soucis amoureux, ou des soucis je ne sais quoi, c'est oublier que c'est une libération d'énergie, et c'est cette libération, et c'est cette notion de libération d'énergie qui crée au fond ce qui est la plus grande douleur pour vivre quand on vit consciemment, à savoir qu'est-ce que nous faisons ici, que faisons-nous. Même si nous croyons, même si on a une foi, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce donc On peut presque tout... Il y a un instinct de conservation qui est tel qu'on peut résister à tous les deuils possibles et imaginables. Pratiquement. Enfin, pas toujours, bien entendu. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est ça la vérité de la vie. C'est ce qu'on peut appeler l'instinct de conservation, l'énergie, l'instinct de conservation, pour pouvoir libérer cette énergie. on conserve pas, la sainte conservation, c'est pas du tout pour se conserver, etc. C'est pour toujours faire la preuve de faire preuve d'énergie. Enfin, c'est pour toujours pouvoir libérer de l'énergie. C'est absolument, mais c'est matériel. La nature, c'est ça. Tout le temps, la vie, c'est ça. La biologie, c'est ça, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas de raison que nous soyons différents dans notre construction humaniste. Ça ne fait rien oublier. Ça, la construction humaniste, c'est une construction. Ça ne fait pas oublier cette réalité-là. L'instinct de conservation, ce n'est pas égoïste, pas du tout. C'est l'instinct, c'est se conserver pour pouvoir libérer encore de l'énergie. Mais c'est fou. On n'en sort pas. On n'en sort pas de ça. Et c'est donc, toutes les notions d'infini sont la notion d'infini est là. Elle est là-dedans. Elle est là-dedans. On ne peut plus croire au fini à ce moment-là. C'est terminé, si je peux dire. On ne peut plus croire. Et c'est ça qui est vraiment douloureux. Et c'est ça qu'un artiste doit, d'une certaine façon, a le devoir d'exprimer, de sortir, de rendre, si vous voulez. Et quand on voit la faiblesse des commentaires, évidemment, il fallait faire comprendre aux enfants ou aux jeunes, aux adolescents, des choses qu'ils pouvaient comprendre avec leur pensée, enfin la pensée qu'on leur inculquait par ailleurs. Mais quand vous commencez à penser ça, quand vous êtes adolescent, que sortez de l'adolescence, vous êtes libre. Quand vous êtes libre. Quand vous découvrez que, d'abord, vous n'avez pas à juger les autres, au fond, que tel autre, bien voilà, dans un comportement, on peut trouver choquant, n'importe quoi, il y a simplement soit une baisse d'énergie, soit un manque de force, enfin, de pas d'énergie au sens d'avoir de l'énergie, libérer d'énergie, c'est tout. Donc ça rend extrêmement tolérant aussi par rapport au comportement des autres. On ne peut plus juger, on ne peut plus dire il est ci, il est paresseux, il est ci, il est ça, elle est machin, etc. On ne peut plus dire ça, c'est plus possible. On le dit, hélas, mais pour aller plus vite. Mais on ne peut pas le dire, parce que il faudrait pas le dire. Simplement, il manque une force où il y a des gens aussi qui ont peur aussi de sortir cette énergie. Qui ont peur. Il n'y a pas de gens plus intelligents que d'autres. Il y a des gens, par exemple, qui n'osent pas se servir de leur pensée. De leur pensée personnelle, ce qui les fait passer pour moins intelligents que d'autres. Mais moi, je suis absolument persuadé qu'on a à peu près le même lot comme ça au départ. Simplement, il y a des gens qui ont peur d'utiliser leur esprit. Moi, c'est une chose que j'ai toujours pensé. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas très malin, je dis non. Quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens expressifs. Et qui a aussi peur de, tout simplement, d'exercer son droit à la pensée. Et tout. Et ça vient d'énergie aussi, c'est pareil, de cette notion d'énergie. La psychologie, justement, ce qui fixe dans des schémas, dans ces schémas-là, ridicules, vous savez, ses qualités, ses défauts. Il n'y a pas de qualité ni de défaut. Il y a simplement des baisses ou des manques de force.
Je vais introduire maintenant le terme de logique. Est-ce la logique qui fait faire de l'action à vos figures et donc dans ces cas-là qui ferait un monde? Et est-ce qu'une logique doit s'éprouver par la longueur?
La longueur, c'est-à-dire
les 800 pages de progéniture.
Oh non, ça c'est... Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas, je crois pas, il n'y a pas de rapport. Moi, j'ai toujours fait assez long.
Mais ce n'est pas lié à la logique qui voudrait que pour qu'une logique soit bien installée...
Il y a ça. De l'instant que je refuse la scène de roman, vous savez, bien close, etc., je trouve ça ridicule, personnellement, oui. Je trouve ça absurde. Les grands livres sont ceux qui ne se soucient pas de ça. Alors franchement, hein, regardez tous les livres, et même les livres qui ont servi d'exemple à ce genre de littérature-là, comme Stendhal, regardez Stendhal, c'est une coulée comme ça, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de chute, il fait ce qu'il veut, lui. C'est pas du tout bouclé. Les scènes sont pas bouclées chez Stendhal. Hein. C'est un. C'est vraiment, s'il y en a un qui est vraiment qui a influencé ce genre de petits romans bouclés, vous savez, avec des chutes, machin, genre un peu nouvelles, tout ça. Non, je crois pas. Regardez les choses qui sont closes, comme les contes d'Edgar Poe. C'est pas vraiment clos. C'est pas clos du tout. Rien n'est clos, moi je pense. Puisque les, je sais pas. Prenons les grands livres, Don Quichotte, ce n'est pas clos du tout. C'est une période de la vie d'un. Si vous voulez, c'est pas une tranche de vie, comme on dit effroyablement aujourd'hui. C'est une période de la vie dont l'artiste sent qu'elle, en quelque sorte, qu'elle est, qu'il peut, comment dirais-je, qu'elle est suffisamment signifiante, si vous voulez, pour que lui mette un terme. Mais mette un terme, c'est tout. Mette un terme à l'œuvre qu'il fait dans cette durée-là. On a évidemment un plan dans la tête. Moi, j'ai un plan pour ce que je fais maintenant. J'ai un plan. Mais vous savez, ça peut durer, parce que moi, je me transforme tous les jours, comme tout le monde. C'est encore une fois l'énergie. Les gens oublient ça aussi, que les êtres se transforment. Enfin, jour après jour, et même minute après minute. Bon, je ne sais pas du tout, moi, ce que j'ai commencé il y a 2 ans, je ne sais pas du tout comment ça va. À l'intérieur même d'un projet, la vie intervient. L'expérience, la vie. Non seulement l'expérience de l'œuvre, mais l'expérience de la vie. Ce qu'on rencontre, ce qu'on voit, si vous voulez. Et la pensée qui évolue, qui. Donc le terme d'une œuvre, c'est le terme que décide le développement de la personne qui crée. Ou c'est un espèce de juste milieu ou de comment dirais-je de compromis entre le plan prévu et la. Mais un plan, qu'est-ce que c'est? Moi, mon plan, il se résume à. Le plan actuel, il se résume à 7 pièces, 7 lieux, 7 lieux d'un même pâté, d'un espèce de même pâté de maison, de taudis, et puis finalement une fin comme ça, au lever du jour. Et puis je vois quelque chose. Et est-ce que ça peut se transformer en plan? Ça, je ne sais pas du tout. Quand vous avez un plan qui est un plan matériel, si vous voulez, forcément, ça se. Même pour un plan de philosophique, ça se transforme avec la vie que vous avez. Un grand philosophe fait un plan, le plan d'une œuvre longue ou même d'une œuvre relativement courte. Il sait très bien que ce plan sera changé par sa vie et par le mouvement de sa pensée, par ce qu'il voit lui comme le progrès de sa pensée. Parce que vous savez, on est ainsi fait qu'on voit. On ne se voit qu'en progrès. C'est terrible. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre que j'ai pu écrire certaines choses il y a très longtemps, que je pourrais signer aujourd'hui, presque. Alors que moi, je me vois toujours en progrès, toujours encore l'énergie, toujours en progrès. Et c'est ce qui fait aussi qu'on crée. Aussi. C'est que ce qu'on a créé devient caduque. Pas dans le réel, évidemment. Mais dans votre esprit. Moi, je rejette, en tout cas, ce que j'ai écrit avant. Je le rejette. Progéniture, déjà, c'est très loin. Je vois la jointure, la fin, et puis la jointure de ce que je fais maintenant. Mais sinon, je n'ai plus aucune... Je n'ai plus envie de le lire, je n'ai plus du tout envie de... Mais il est évident que dans 10 ans, si je jette un œil dessus, j'aurai sans doute une vision différente.
C'est donc la première partie de l'entretien avec Pierre Guyotat. La seconde partie sera diffusée mercredi 2 novembre de 19h à 20h, c'est-à-dire la semaine prochaine. Il est 19h50 et des pirouettes, l'heure de retrouver au téléphone Thierry Guichard, le directeur de l'excellente revue Le Matricule des Anges. Et nous parlerons plutôt ce soir du numéro à venir du Matricule et non pas le numéro d'octobre. Donc nous parlons du numéro de novembre qui contient un dossier sur Raymond Federman. Bonsoir Thierry Guichard.
Bonsoir.
Pourquoi donc ce dossier sur Raymond Federman?
Qu'est-ce qui vous a... Trois parutions de Raymond Federman, dont un livre-roman qui s'appelle Retour au fumier chez Al Dante, et que c'est un sacré monsieur quand même. Federman, c'est un sacré écrivain franco-américain qui est né en France, qui vit aux États-Unis et qui a commencé à écrire à la fin des années 60, qui a été le premier à faire une thèse de doctorat sur Beckett, qui a été salué partout et qui ensuite a dirigé le cahier de Lerne sur Samuel Beckett. Et puis qui, dans les années 70, s'est mis à écrire de la fiction, de la poésie et de la fiction, et de la fiction à partir de dont le matériau principal est sa vie, en fait. Non pas que ce soit des autobiographies qu'il écrive, mais il a besoin de prendre cette vie, et surtout l'enfance, pour essayer d'en retrouver les morceaux de mémoire qui ont disparu, pas non plus parce qu'il perd la mémoire, mais parce qu'il a... Raymond Federman a eu une enfance marquée par une scène traumatique violente. C'est-à-dire qu'en 1942, ses parents et ses deux sœurs sont déportés par la milice française sous les ordres de la Gestapo. On vient chercher les Federman chez eux. Et la mère de Raymond Federman a juste le temps de le pousser, lui, dans le débarras en lui disant de se taire, en mettant le doigt sur la bouche en faisant chute. Et lui l'a vu partir comme ça, ses deux parents et ses deux sœurs. Et à 13 ans, j'imagine que ça doit être assez éprouvant de voir ça. Et surtout, il s'est retrouvé tout seul. Il a traversé toute la France pour se réfugier dans le sud de la France. Il a travaillé dans une ferme. Et c'est ce qu'il raconte dans Retour au fumier, c'est-à-dire la découverte de la ferme, de la nature, à un âge où lui découvrait aussi sa libido très, très galopante dans toute son œuvre. Et il raconte ça donc avec ce procédé habituel chez lui, c'est-à-dire qu'il s'adresse toujours à quelqu'un quand il écrit. Et donc là, il s'adresse à sa femme avec qui il vient en l'an 2000-2001. Il vient en voiture en France et il descend donc à la recherche de cette ferme-là, en même temps qu'il répond aux questions que lui pose un ami écrivain par courrier électronique. Donc ça fait comme ça des discussions. C'est assez drôle parce que chez Federman, c'est toujours très très drôle. Évidemment, il y a une angoisse et un drame extraordinaire à l'origine de tout ce qu'il écrit, mais c'est vraiment très drôle, quoi. On rit beaucoup à le lire. Et moi, ce que j'avais vraiment adoré, c'est un roman de lui qui est paru en 73 aux États-Unis et qui n'est paru qu'il y a 2 ans en France, qui s'appelle « Quitte ou double », et qui pour moi est un livre très très important dans la littérature américaine et très important dans la littérature française aussi, dans la mesure où c'est un livre complètement fou dans lequel Federman imagine qu'un romancier va écrire l'histoire d'un garçon qui franchit l'Atlantique en bateau dans un paquebot pour venir de France aux États-Unis. Alors évidemment c'est de lui dont il est question. Et il dit, ben voilà, faut que j'écrive le roman de ce type-là quand il arrive aux États-Unis, tout ça. Et pour écrire ce roman-là, je joue au poker, je gagne 1 200 $. Et avec ces 1 200 $, je dois louer une chambre pendant un an, m'enfermer dans cette chambre pendant un an et écrire. Et donc il se pose toutes les questions qu'il doit se poser avant d'entrer dans la chambre, c'est-à-dire comment je fais pour manger. Donc j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais acheter que des pâtes, des nouilles. Donc il va acheter 365 paquets de nouilles pour manger. Il faut que je prenne du sel. Ah oui, mais le sel, je l'ai volé dans les restaurants. Il faut que je prenne du sucre, voilà. Il faut que je prenne... Ah, mais il faut du PQ aussi. Donc, combien de rouleaux de PQ? Alors, combien on consomme de PQ en moyenne par jour, etc., etc. Et puis, en même temps, il se pose des questions. Bon, alors maintenant, comment je vais écrire ça? Par où je commence, etc. Et c'est un roman vraiment extraordinaire, complètement déjanté, avec une typographie, une mise en page complètement folle. Il faut savoir qu'à l'époque, il l'avait fait à la main, et que son premier éditeur américain a dit on va le publier, mais on ne sait pas comment. Et en fait, ils en ont fait des photographies du livre. Et c'est un travail extraordinaire qui a été repris aussi par les éditions Al Dante, qui a été un travail éditorial, je pense, assez fabuleux, parce que c'est la mise en pratique de ce qu'il appelle la surfiction ou la critique fiction dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y a du commentaire sur ce qu'on est en train de lire, il y a des flèches pour que le lecteur sache où chercher le mot. Quand il fait tomber son personnage, les lettres se mettent à la verticale, donc la lecture chute en même temps. Enfin voilà, c'est plein d'inventions comme ça. Et donc voilà, on avait vraiment envie de faire Federman. Il était en plus en France ces derniers jours, là, la semaine dernière. Donc c'était l'occasion de le voir. Et je peux vous dire que j'étais pas déçu du tout, parce que c'est un sacré personnage que je l'ai rencontré à Lille dans son hôtel, et j'ai passé deux jours avec lui. Et c'est un monsieur de 77 ans qui a une pêche incroyable, qui raconte des histoires à n'en plus finir, qui mime les histoires qu'il raconte, et c'est assez passionnant quand même.
Est-ce que, d'après vous, il jette un pont entre la littérature américaine et la littérature française ?
Alors, le pont avait été jeté avant lui par le nouveau roman, dans la mesure où je pense que le nouveau roman a beaucoup influencé la littérature américaine qu'on a appelée du behaviorism, c'est-à-dire non pas de la psychologie, mais on décrit les personnages à travers leurs actes, hein, et puis aussi des écrivains comme Raymond Carver, des choses comme ça, à travers toutes les conférences que le nouveau roman a pu faire dans les universités américaines. Et il se trouve que Raymond Federman a été universitaire, parce qu'il a une vie incroyable aussi aux États-Unis. Il était joueur de jazz, golfeur, champion de natation, et il a pris ses études parce qu'il a fait 2 ans et demi de guerre en Corée et au Japon, et ça lui donnait le droit de faire des études. Donc il a fait des études là-bas, et il est devenu universitaire. Et à l'université de Buffalo, où il dirigeait plusieurs départements, il a fait venir pas mal d'écrivains du structuralisme qu'il a découvert en France. Il a fait venir Derrida, il a fait venir Foucault, il a fait venir De Guy, il a fait venir Prigent, enfin il a fait venir beaucoup de monde comme ça. Et ce qu'il dit là-dessus, c'est que contrairement au nouveau roman qu'il lui trouvait très intéressant, la différence qu'il y a avec ces écrivains de la science-fiction, c'est qu'ils ont aussi inventé un langage. Ils n'ont pas simplement nettoyé le roman des vieux poncifs de la littérature du 19e siècle. Ils ont aussi inventé un langage. Il y a beaucoup de jurons, il y a beaucoup de... c'est très rabelaisien, Federman aussi. Et il y a une invention en permanence et du langage et de la façon de mener une intrigue, ou de ne pas mener d'intrigue justement, et aussi dans la mise en page, etc., etc. Et je pense qu'il a dû faire le pont plutôt de la France vers les États-Unis que l'inverse. Mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'un livre comme Qui tout double ait mis plus de 30 ans pour venir jusqu'à nous, quoi. Ça, je trouve ça incroyable. Alors je comprends que ce soit des livres difficiles à faire, mais il y a une telle inventivité, il y a une telle force dans ce livre-là, que c'est un livre qui, je pense, qui a eu ensuite pas mal d'enfants, je dirais, aux États-Unis. On a eu le roman de Danielewski qui s'appelle La Maison des Feuilles, qui était paru il y a 3-4 ans chez De Noël, je crois, ou chez Belfond, je ne sais plus, et qui est dans cette veine-là. Et je pense qu'il y a eu pas mal de livres de cet ordre-là qui ont été faits aux États-Unis. Et bon, j'espère que le fait qu'on découvre aujourd'hui Federman en France, j'espère que ça va relancer des choses, parce que c'est vraiment... Il y a une foule de choses à prendre dans ce qu'il fait. C'est excitant, c'est drôle. Évidemment, il y a un drame terrible derrière, donc en même temps, il y a de la profondeur. Enfin, c'est quelqu'un, quand il parle de ses parents dans la fourrure de ma tante Rachel, il commence à dire « Oui, c'était avant que mes parents aient été transformés en savonnettes. » Bon, ben voilà, lui, il peut dire ça. Je trouve que c'est d'une violence extraordinaire, d'une force extraordinaire. Et on n'arrête pas de rire. C'est vraiment un hymne à la vie, quoi. Et lui, c'est ce qu'il dit. Il dit la chose essentielle aujourd'hui, c'est rire. Il y arrive remarquablement bien.
Eh ben merci beaucoup Thierry Guichard, c'était très éclairant sur Raymond Federman. On lira ce dossier vraiment avec beaucoup d'appétit. Merci beaucoup.
Merci.